Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles et lire deux versets en introduction de ce message. Dans l'épître de Paul aux Romains, vous allez me dire que je rentre dans le vif du sujet, au chapitre 6, et nous lisons versets 23 et 24. Je confonds 23, c'est avec Romains 3. On va lire le Romains 3 aussi. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Ce verset nous parle simplement de deux choses, un contraste absolu entre la mort d'un côté et la vie de l'autre. Le salaire d'un côté et la grâce de l'autre. Romains 3, 23 et 24, nous lisons ceci. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un verset qu'on cite souvent quand on prêche en évangélisation, parce qu'il apporte une vérité toute simple, qui est que tous sont pécheurs et qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Mais le verset 24, on le cite pas toujours, pas aussi souvent, et pourtant il est très très important. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est dans le Christ Jésus. Là encore, il est question de rédemption. La rédemption, c'est quand quelqu'un paye une rançon pour délivrer quelqu'un d'autre qui est emprisonné. La rédemption, c'est Jésus qui la paye. Donc il y a un salaire qui a été payé. Ce soir, j'aimerais ensuite parler de ce que Jésus a dit de lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, peut-être avez-vous lu ce passage dernièrement et n'avez-vous peut-être pas tout compris? Vous trouvez peut-être que les paroles de Jésus sont parfois difficiles à comprendre. J'aimerais donner quelques explications sur ce passage qui n'est pas, je le conçois, naturellement simple à comprendre. Jean, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 22. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Juste avant, Jésus a opéré la multiplication des pains, la veille au soir. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Christ, que le Fils de l'homme, vous donnera, car c'est lui le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous te croyions. » Ils ont juste vu une multiplication de pain se faire la veille. « Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph ? Lui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui, a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Et je m'arrête ici, la lecture, cette longue lecture, qui nous parle de Jésus, le pain de vie. Et ce n'est pas pour rien que le dimanche matin, quand nous nous retrouvons, nous partageons du pain et du vin, qui est un emblème des souffrances de Jésus, qui est un emblème finalement, et qui est un rappel de ce que Jésus enseigne ici. Quand nous prenons le pain et le vin, nous le faisons en mémoire de ce qu'il a vécu. Et j'aimerais qu'on n'interprète pas mal les propos que nous venons de lire, parce que non, quand on prend le pain et le vin, ça ne se transforme pas dans notre corps en chair et sang de Jésus. Ça reste du pain et du vin. On le fait simplement en mémoire de ce que Jésus nous a enseigné. J'aimerais aussi qu'on puisse comprendre l'importance de ces emblèmes. Le pain, on va parler plus du pain, et le vin qui nous parle de quoi ? De son sang. Qui nous parle de son sang, de sa vie. Le sang, c'est la vie. Jésus donne sa vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Le sang symbolise la vie de Jésus. Et quand nous prenons le pain et le vin, il n'est pas question de pain, de vin exclusivement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il est question de pain, de vin, mais ce qui est important au niveau du vin, c'est que la boisson soit rouge, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle que c'est le sang de Jésus. Tout simplement que c'est le sang, c'est la vie. Et Jésus a donné sa vie. C'est tout ce qu'il faut retenir dans ce que nous faisons le dimanche matin. On le fait en nous rappelant que Jésus-Christ, simplement, a donné sa vie pour nous, mais pas que. Il a aussi souffert. Tout ce texte nous parle du pain de vie. Et j'aimerais juste qu'on puisse focaliser sur le pain. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Je ne sais pas, déjà, juste parlons même de l'origine. Vous savez où Jésus est né ? Dans une ville qui s'appelle Bethléem. Bethléem, ça veut dire maison du pain. Ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Que faut-il pour faire du pain ? Moi, je suis allé voir, je suis allé regarder avec quoi on fait du pain. C'est assez simple, la recette. Il nous faut de l'eau, de la farine, un peu de sel et éventuellement du levain. Comment on fait le pain ? Une fois qu'on a tous ces ingrédients sont intéressants quand on essaye d'y réfléchir un peu. De tous ces ingrédients-là, alors que je les mets ensemble, je fabrique une pâte. Alors c'est déjà intéressant parce que le jour où on reçoit la vie de Dieu en nous, nous qui sommes poussière, la farine, c'est quoi? C'est du blé qui pousse? Le blé, il vient d'où? Il vient de la terre. La farine vient de la terre. Nous, nous sommes pareils. Nous venons de la terre. Nous sommes que poussière. Mais quand on y mélange l'eau qui vient du ciel, alors se forme une pâte toute nouvelle. Se forme quelque chose de tout neuf. Quelque chose qui va pouvoir être plus tard du pain. Et c'est ce que Jésus est devenu. C'est ce que Jésus-Christ est. Il est cet alliage, entre guillemets, cette association de ce monde céleste et de ce monde terrestre. Jésus est Jésus-Christ. Je le dis régulièrement, Christ, c'est l'envoyé de Dieu, c'est loin de Dieu, c'est celui qui vient du ciel. Jésus, c'est celui qui est né sur la terre. Au milieu, il y a un trait d'union. Jésus, c'est les deux. Jésus est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Jésus est celui qui vient du ciel, qui s'est dépouillé de sa gloire pour marcher parmi nous et devenir cette pâte. Jésus avait toujours du sel aussi dans ses paroles. À chaque fois qu'il parlait, il l'interpellait. Il faisait réfléchir. Jésus ne parlait jamais pour ne rien dire. Il ne parlait jamais trop et il ne parlait jamais trop peu. Il disait toujours la bonne parole au bon moment. Une fois que cette pâte nouvelle est née, une fois que Jésus est né sur la terre, alors a commencé une phase de pétrissage, de malaxage. Comment on fait du pain? Comment on fait la pâte? On a une spécialiste parmi nous. Mais comment on fait du pain? On remue la pâte dans tous les sens, on la pétrit, on la malaxe et on la fait bouger un certain temps comme ça. C'est un peu ce que Jésus a vécu quand il était sur la terre. Dans tout son ministère, dans tout ce que Jésus a vécu sur cette terre depuis sa plus tendre enfance jusqu'à la croix, il a été malaxé dans tous les sens par ce monde méchant et rebelle. Et Jésus, et on va le voir, Jésus va aller jusqu'à la croix pour mourir pour nous. Pourquoi? Parce que tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Et nous n'étions pas dignes de recevoir Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous lui avons réservé le sort que nous ne pouvions que lui donner, à savoir le maltraiter, le mépriser, l'insulter, bref, ne faire aucun cas de lui. C'est ainsi qu'il a grandi, c'est ainsi qu'il a vécu même son ministère. Là, on se retrouve avec une scène assez remarquable où Jésus est en train de discuter avec des responsables religieux de l'époque, des pasteurs. Et visiblement, tout le monde ne comprenait pas bien ce qu'il voulait dire. Et il y a eu des affrontements, si je puis dire, où Jésus se retrouve ainsi à essayer de faire comprendre aux Juifs qu'ils étaient dans l'erreur. Et Jésus essayait de faire comprendre qui il était, pourquoi il était là. Jésus, comme cette pâte à pain, a été malaxé. Et Jésus a bien souffert. Nous avons lu ce chant nous avons chanté ce chant qui nous parle des souffrances de Jésus. Un extrait d'Ésaïe chapitre 53. Jésus a été, son corps a énormément souffert. On ne pourrait pas compter les coups qu'il a eus. Mais Jésus a subi tellement de choses. Alors qu'il était à Gethsémané, son cœur allait lâcher. Il a été en proie à des angoisses terribles. Et il a demandé à être délivré de ce moment parce qu'il avait peur de mourir trop tôt. Il avait peur. Il a demandé à Dieu du secours. Et Dieu l'a secouru. Et pourquoi Dieu a secouru Jésus à ce moment-là? Parce que ce n'était pas son heure. Il fallait qu'il souffre encore plus. Suite à cela, s'en est suivi toute une journée très difficile. Mais Jésus avait passé le stade des angoisses, Jésus avait passé le stade de cette difficulté. Il était dans cette journée particulière où son corps a terriblement souffert. Jésus, en plus de toute cette violence verbale, a subi la torture, on peut le dire, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Il a été torturé à mort. Par le plus terrible des supplices, qui est la croix. Mais avant la croix, il y a eu d'autres choses. Il y a eu les coups, il y a eu le fouet. J'aimerais citer ce passage. On va le lire ensemble, dans le livre d'Ésaïe. Je crois de le voir écrit, ça peut parler aussi. Ésaïe, chapitre 50. On parle de cette patte qui s'est fait malaxer dans tous les sens. Et Jésus l'a vraiment vécu sur la terre. Et là, on a la marque finale. Ésaïe 50, verset 6. Ça m'a fait penser au pain, ce verset. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Vous savez ces coups de fouet que Jésus a reçus, qui ont lacéré son dos. Ce n'était pas des fouets comme on voit, c'était des fouets avec des clous au bout. Et il a eu le dos lacéré, un peu comme le pain, vous savez, quand à la fin on prend le couteau là, chlac, 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 chlac. On prépare la pâte juste à la fin, parce qu'après on va faire quoi avec cette pâte-là? On va la mettre au four. Et c'est la dernière marque qu'on fait sur le pain, sur la pâte, ces petits coups de couteau là. Ce verset, quand j'ai lu ce verset, j'ai pensé, quand je préparais cette prédication et que je lisais ce verset, je me suis dit quand même jusque-là, il y a l'image. Jésus, ce pain qui a été malaxé, qui a subi justement ces coups-là, cette pâte, une fois ainsi préparée, est passée au four. Vous savez comment on faisait le pain avant ? Avant, quand on faisait le pain, les Bédouins, ils faisaient un trou dans le sol. Ils faisaient un trou qu'ils chauffaient, ils le nettoyaient bien, ils mettaient des pierres pour garder la chaleur. Et ensuite, pour la nuit, ils mettaient la pâte qui avait été préparée et le lendemain, le pain était prêt à manger. Donc en fait, le four, c'était dans la terre. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. Jésus est mort sur la croix. Jésus a subi le malaxage, il a subi les coups de fouet jusqu'au bout, il a souffert jusqu'au bout. Il a livré son sang jusqu'à la dernière goutte. Tout ça parce qu'il nous aimait, parce que c'était le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. C'était uniquement par ce moyen-là, et il n'y en a pas d'autre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est pas en espérant s'améliorer, en essayant de corriger les problèmes qui ne vont pas. Non. Vous pourriez avoir une vie tout à fait rangée si vous ne passez pas par la croix. Si vous ne réalisez pas ce que Jésus a dû payer pour que vous puissiez être réconcilié avec Dieu, vous êtes perdu. C'est peut-être un peu cru la manière dont je le dis, mais il faut que vous l'entendiez. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que Jésus-Christ a tout accompli sur le bois de la croix, qu'il a souffert, qu'il a porté votre péché. Voilà la croix, voilà l'œuvre de la croix. Et une fois la croix passée, Jésus est allé au tombeau. On l'a mis dans la terre. Il a été 3 jours dans la terre. Il a cuit 3 jours, entre guillemets. Mais au bout de 3 jours... C'est pas il en est ressorti un pain tout beau, parce que Jésus, le troisième jour, est ressuscité. Et c'est parce que Jésus est ressuscité que nous sommes là ce soir. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous pouvons vous annoncer cette bonne nouvelle. Parce qu'il est ressuscité aujourd'hui, nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Aujourd'hui, nous pouvons demander pardon à Dieu. Parce que Jésus-Christ intercède lui-même auprès de Dieu en notre faveur, en votre faveur. Si ce soir, tu te demandes, tu réfléchis sur toi-même et que tu demandes à Dieu pardon pour tes péchés, d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, tu t'approches de Dieu et tu lui demandes déjà que tu puisses comprendre comment lui te voit, pour que tu puisses pleinement considérer le péché dans lequel tu es, que tu puisses réaliser pleinement ce que Jésus a dû souffrir pour le péché que tu as, et que suite à cette révélation que Dieu veut te donner, parce qu'il désire te sauver, il veut te révéler le péché dans lequel tu es, il veut que tu puisses le réaliser, que tu es loin de lui, alors si tu te repens, si tu demandes pardon à Dieu, tu peux obtenir le salut. Tu peux être pardonné. C'est là la grâce de Dieu. C'est là le but même des souffrances de Jésus. Le but des souffrances de sa mort et de sa résurrection. Parce qu'on ne peut pas dissocier les trois. Les trois vont ensemble. S'il n'y a pas la résurrection, il n'y a plus rien. Mais s'il n'y a pas la mort, il n'y a plus rien non plus. Il faut les trois. Il faut les trois. Jésus est ressuscité et il intercède auprès du Père en notre faveur pour qu'alors que nous nous approchons de Dieu repentant, nous puissions avoir le pardon. Parce que Jésus, une fois au ciel, dit « Père, j'ai payé. J'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. Pardonne-lui son péché. Parce que je suis mort pour lui, je suis mort pour elle. J'ai souffert pour lui, j'ai souffert pour elle. J'ai subi des coups pour lui, j'ai subi des coups pour elle. Et je veux lui donner la vie. Je veux que l'Esprit de Dieu puisse habiter dans cette personne qui s'approche de toi. » J'aimerais qu'on lise un texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour, avec un grand J dans ma Bible, la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Jésus est mort pour toi. Et c'est le seul fondement sur lequel ton salut peut se baser. Et je dis pas tu pour manquer de politesse ou de respect, je dis tu pour que tu réalises que c'est personnel. Si tu crois dans ton cœur que par tes propres efforts, tu peux gagner la clémence de Dieu, tu te trompes. Si tu crois que tu peux t'approcher de Dieu sans demander pardon pour ton péché, tu te trompes. Tu ne pourras pas obtenir le salut autrement que par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix a dit « Tout est accompli ». Vous savez, Dieu est éternel et Dieu n'a pas besoin de réitérer son œuvre. Dieu, quand il fait quelque chose, il l'a fait une et une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Il est éternel. Quand il agit, il n'a pas besoin de s'y reprendre à deux fois. Et l'œuvre de la croix, Jésus ne meurt pas tous les dimanches. Jésus ne meurt pas régulièrement pour nos péchés. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire que le pain et le vin que nous consommons se transforment en morceaux de chair ou de sang de Christ, parce que ça ferait mourir Jésus encore à chaque fois. Et ça voudrait dire que l'œuvre de la croix ne sert à rien. Jésus est mort une et une seule fois pour nous tous. Et c'est suffisant. Jésus a dit « Tout est accompli ». Si ce soir tu es dans le doute par rapport à ces choses, c'est là qu'intervient le domaine de la foi. Parce que on ne peut pas être sauvé sans accepter par la foi que ce qui s'est passé est suffisant. On ne peut pas être sauvé sans accepter que oui, Jésus a souffert à ce point pour me sauver, qu'il est mort à ce point parce qu'il a pris mon péché, il a eu le salaire du péché, c'est lui qui l'a payé, à ma place. Et je ne peux pas non plus obtenir le salut si je ne crois pas qu'il est ressuscité. Parce que s'il n'est pas ressuscité, il ne peut pas intercéder pour moi. Il faut croire ces choses. Et ça passe par la foi. Le problème, c'est que les auditeurs de Jésus, pourtant, je pense qu'il avait, s'il y avait bien quelqu'un qui avait les bonnes paroles, c'était lui. Je pense qu'il a bien prêché ce jour-là. Eh bien, il y en a qui n'ont pas cru. Il y en a qui n'ont pas cru. Et c'est malheureux à dire, mais croire demande un certain effort. J'aimerais qu'on lise un proverbe par rapport à, en lumière de ce texte, du pain de vie. C'est le proverbe au chapitre 26, proverbe 26, 15. Quand on considère Jésus le pain de vie, et qu'on lit ce verset, j'espère que ce verset va vous faire réfléchir. Proverbe 26, 15. Voici ce que je lis. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. C'est malheureux quand même. C'est malheureux que d'être là ce soir, de pouvoir entendre et peut-être même comprendre que Jésus est le pain de vie. Donc, j'essaye de vous faire comprendre ce que ça veut dire, le pain de vie, qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est une chose que d'être là et d'assister à cette réunion, de recevoir cet enseignement. Mais c'en est une autre que de ramener la main à ma bouche. Et c'est malheureux à dire, mais pour les paresseux, c'est un effort. Je crois que manger, on est tous d'accord que c'est un plaisir. Et ne déformez pas mal mes propos, mais je crois, entre guillemets, qu'il doit y avoir une certaine forme de plaisir que de venir à Dieu et de recevoir la paix qu'il veut nous donner, de recevoir la joie qu'il veut nous donner, de recevoir la vie qu'il veut nous donner. Parce que quand on vient à Dieu, le cœur repentant, sincère, en lui demandant pardon pour nos péchés, on reçoit toutes ces choses. Et c'est le bonheur. C'est le bonheur que de se savoir réconcilié avec Dieu. C'est le bonheur que de savoir que si ma vie doit m'être enlevée, je vais au ciel. C'est le bonheur que de savoir que quand je me couche, le soir, je suis seul. Et je suis dans la paix parce que ma vie a été rachetée. Et je le sais, et je l'ai cru, et je m'appuie sur ses paroles. N'est-ce pas malheureux que de plonger la main dans le plat, de venir là ce soir, dans ce lieu, et de repartir comme vous êtes venus? J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. C'est vrai que parfois, quand on mange, il peut y avoir de la nourriture pénible à manger. Je sais que quand je mange des fruits de mer, ça m'agace un peu parce que ça demande beaucoup de travail. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose à la hauteur des efforts. Il y a la vie éternelle à la clé. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse faire le point devant Dieu. Est-ce que oui ou non, je veux participer à ce pain de vie? Est-ce que je veux manger de ce pain? Est-ce que je comprends que Jésus-Christ est mort pour moi? Est-ce que je comprends que il a donné sa vie pour moi? Est-ce que j'accepte que je ne puisse rien faire moi-même pour me sauver? Est-ce que j'accepte que lui ait tout fait pour moi? Est-ce que je suis prêt à venir devant Dieu et lui demander la grâce de me voir comment lui me voit avec mon péché, pour que de tout mon cœur je puisse ensuite lui demander pardon et me repentir avec ce vrai cœur honnête, sincère? Pourquoi je dis ça? Parce que il ne s'agit pas de venir sur le devant et demander qu'on prie pour vous. Il ne s'agit pas non plus de dire dans une prière rapide, « Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. » Non. Seule la prière qui vient du cœur sera entendue. Et pour que cette prière vienne du cœur, vous avez besoin d'être illuminé par Dieu. Vous avez besoin que Dieu vous fasse réaliser comment il vous voit si vous n'êtes pas réconcilié avec lui. Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Je ne peux pas le faire. Mais cette prière, par contre, vous pouvez la faire. Vous pouvez demander à Dieu du secours dans votre cœur. Et vous pouvez demander à Dieu pardon pour votre péché, une fois qu'il vous aura révélé. Je vous invite ce soir à venir à lui. Qui désire ce soir demander au Seigneur sa grâce? Qui désire ce soir recevoir la vie éternelle? Cette assurance que peut-être tu n'as pas encore à ce jour. Cette assurance qui fait que tu te dis le matin quand tu te lèves, je ne sais pas de quoi cette journée sera faite. Et si je m'en vais, je ne sais pas où je vais. Qui ce soir veut recevoir ce pain de vie? Recevoir la vie qui vient de Dieu. Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas faire cet effort? Ou est-ce que tu vas être paresseux? Tu as mis la main dans le plat. Tu es venu là ce soir. Mais tu ne retournes pas ta main à ta bouche. Le choix, c'est toi qui le fais, là, maintenant. Je ne vais pas vous demander même de vous lever, de lever la main. C'est un moment sérieux, on est seul devant Dieu. Et on lui demande sa grâce. Est-ce que tu veux connaître la vie de Dieu ce soir? Tu veux expérimenter la vie de Dieu? Alors c'est possible. Là, maintenant, tu peux recevoir la vie de Dieu. Repens-toi. Demande au Seigneur pardon pour tes péchés. Et implore-lui la grâce qu'il veut te donner. Il veut te donner parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te sortir de ses griffes du diable. Il veut que tu puisses dire, affirmer que tu lui appartiens, que Dieu est ton Père. Il veut que tu puisses le saisir par la foi maintenant, ce soir. Viens à lui, une vraie démarche de cœur, quelque chose qui n'est pas factice, quelque chose qui n'est pas fait devant les autres, quelque chose qui vient purement de ton cœur, que Dieu pourra vraiment agréer, parce que ce sera ta démarche. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce. Oui Seigneur, combien ces paroles nous dépassent. Et quand nous les lisons, il peut nous être difficile de les comprendre. Mais oui, Seigneur, tu es ce pain qui donne la vie. Tu es ce pain qui vraiment nous fait du bien. Tu es ce pain qui vraiment veut nous réconcilier avec Dieu. Tu es cette nourriture qui nous permet d'accéder au ciel. Seigneur Jésus, je veux te prier ce soir pour peut-être les combats qu'il y a eu en ce moment dans les cœurs. Et je te prie pour que par ton esprit, des personnes puissent comprendre qu'elles ont besoin de ta grâce et qu'elles puissent saisir la grâce que tu veux leur donner. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen.